Alors, merci d'être avec nous. On va parler des codes graphiques du chasseur, hein, vous l'avez compris. On parle des vampires. On a appris comment se défendre contre un vampire sur l'exercice précédent. Là, on va parler des chasseurs de vampires. On a souvent une image assez précise, hein, du vampire, les petites dents pointues, le type qui a du mal à être au soleil. Là, on va parler du chasseur. Est-ce qu'il faut absolument avoir des pieux? Est-ce qu'il faut absolument avoir un chapeau? Et autour de la table, on a quatre intervenants. Alors, je vais commencer par les filles. Sophie Dabat, qui est juste à côté de moi, qui a signé Sainte-Marie-des-Ombres et aussi un ouvrage qui s'appelle Bitlite au mouton électrique, qui nous intéresse au premier plan. On va peut-être voir avec elle un petit peu quelle image le chasseur et peut-être la chasseuse de vampires peut avoir. À mes côtés, Jeanne Adebat, qui, entre autres romans dans une bibliographie impressionnante, vient de sortir L'Héritière aux éditions LQSF, qui parle de vampires. Et on verra que chez elle, les chasseurs de vampires ne sont pas toujours ceux qu'on croit. À ses côtés, Nicolas Stanzik, je n'ai pas écorché votre nom,
c'est ça.
C'est bien, avec deux ouvrages, hein, avec notamment Dans les griffes de la Hammer, donc là on va parler vraiment cinéma avec vous, et puis Midi, minuit, fantastique. Bah là aussi on va pouvoir parler visuel. Et puis Pascal Crossi, scénariste de bande dessinée, qui s'est souvent frotté. Dessinateur, pardon, de bande dessinée, qui s'est souvent frotté au mythe de Dracula, hein, la recherche de Dracula notamment, ou le mythe raconté par Bram Stoker. Donc on va voir un petit peu comment vous voyez très, très concrètement. Peut-être qu'on va commencer avec vous, Nicolas Stanzik. Est-ce que l'image, tout du moins le graphisme du chasseur de vampires, évolue dans les films entre hier et aujourd'hui, entre les premiers films de la Hammer et maintenant?
Évidemment, il y a des évolutions, ça c'est une évidence, parce qu'on n'a pas toujours fait des films de vampires qui se passent à l'époque victorienne. Donc de fait, la mode vestimentaire évolue. Mais néanmoins, il y a des permanences. Si on prend le costume de Peter Cushing dans Le Cauchemar de Dracula, voilà, c'est l'invention d'un personnage, c'est l'invention d'une silhouette. Et Peter Cushing, dans le rôle de Van Helsing, c'est vraiment une silhouette victorienne, à la fois rassurante parce que c'est censé être une figure de héros, mais néanmoins un peu inquiétante parce qu'il a ce côté très strict avec cette veste serrée, avec le doublé de satin, c'est pas du satin mais de fourrure, pardon, voilà, le chapeau, etc. Et surtout la fameuse mallette qui, en termes de silhouette, d'ailleurs, c'est un point commun entre Van Helsing et Jack Léventreur. Donc ça, c'est le côté un peu inquiétant, toujours la mallette avec les ustensiles. Et bien cette silhouette, on la retrouve très récemment, par exemple, dans une série américaine qui n'est pas encore passée en France, qui s'appelle Penny Dreadful, avec Timothy Dalton dans le rôle du père de Mina Murray, qui joue le rôle d'un chasseur de vampires. Et bien là, on a vraiment la permanence d'un personnage, parce qu'on a la permanence d'une silhouette. Si on parle code graphique, bah, voilà, je crois, quelque chose d'important par rapport à la définition du personnage.
Puisqu'on parle cinéma et dans les films de la Hammer, c'est toujours un chasseur ou est-ce qu'il y a aussi des chasseuses?
De mémoire, c'est toujours un chasseur. Néanmoins, la figure du chasseur évolue. Parce qu'au départ, on a Van Helsing, effectivement, Peter Cushing, qui joue le rôle à plusieurs reprises. Et puis assez rapidement, à partir des années 65-66, ça va devenir le jeune premier dont la fiancée est menacée. Donc là, on a une évolution de la figure du chasseur de vampires et notamment de son esthétique, parce que c'est plus tout à fait, voilà, la figure professorale. Donc ça, c'est une évolution. Mais les chasseuses de vampires dans les films de la Hammer, non, les femmes sont tantôt victimes, tantôt prédatrices, mais voilà, elles ne sont pas chasseuses de vampires, elles sont plus souvent vampires ou victimes consentantes.
Tu veux ajouter quelque chose là-dessus?
Que les victimes consentantes, c'est quand même les meilleures.
On va aller revenir un petit peu à Dracula et Van Helsing. Quand vous dessinez Van Helsing, est-ce qu'il y a des passages obligés, un petit peu des choses que vous mettez à chaque fois?
C'est-à-dire
une mallette, un costume différent, une tronche même différente.
Non, les personnages de Van Helsing ne me préoccupent pas beaucoup. En fait, je me sers de Van Helsing comme d'un médecin. J'écris modèle, surtout dans le professeur à Brandeis, dans le bal des vampires. Voilà, pour moi, j'aime bien ce professeur Van Helsing. ce qui est l'inverse pour moi, c'est plutôt comment représenter graphiquement Dracula. Et ça a été un souci pour moi, pour ma bande dessinée, parce qu'au départ, je voulais faire le ressembler à Christopher Lee, puis après, il y avait Gary Oldman. Et Bela Lugosi, j'avais le choix. Je voulais l'inventer et les coiffures diverses que je pouvais réaliser. Puis après, je me suis dit, bon, je n'ai pas à le représenter, tant pis, c'est une bande dessinée. Normalement, on doit représenter. Et je me dis, je prends le pari comme dans un roman littéraire, de, je laisse la personne, le lecteur, faire sa propre image sur la figurine de Dracula.
Juste pour rester sur cette thématique du chasseur, comment est-ce que vous le représentez?
Vestimentairement, tout simplement assez chaudement, parce que c'est en Transylvanie. Pour moi, c'est... Le passage qui m'intéresse dans Dracula, c'est pas ce qui se passe à Londres, mais surtout en Transylvanie. Donc il faut qu'il soit chaudement habillé, au chapeau, une écharpe, un côté cocon pour ses habits. J'ai jamais réfléchi. Ce qui m'a porté, c'est surtout le personnage de Dracula, et qui me fait rêver par rapport à ce côté éternel. Quand on parle de vampire, on pense toujours à érotisme et le sang. Moi, la première fois que j'ai lu Dracula, je n'ai vu que le personnage éternel. Donc, c'est un refuge pour moi. On me dit, on est tous mortels. Je me dis, ah, si je pouvais devenir...
une question pour vous, Nicolas, justement. On a parlé, là, on parle de Dracula, d'érotisme. Est-ce que la figure du chasseur, ça doit être justement l'inverse? Parce que Van Helsing n'est pas très érotique, par exemple, dans Dracula. Est-ce qu'on a des chasseurs érotiques au cinéma?
Tout à l'heure, j'en parlais à propos de la figure de Peter Cushing dans Cauchemar de Dracula. Il existe un érotisme du chasseur de vampires, mais c'est un érotisme mortifère. Ça peut paraître un peu bizarre comme expression, voire contradictoire. Mais encore une fois, quand Van Helsing met à mort Lucie dans Cauchemar de Dracula, il y a toute une symbolique autour du pieu, du sang, etc., qui, à nouveau, est érotique, au même titre que la symbolique du sang chez le vampire. La manière de faire couler le sang, à nouveau, a une signification sexuelle dans les deux cas. Sauf que, dans le cas de Van Helsing, il accomplit par des moyens détournés ce qu'il refuse à Dracula pour des raisons morales. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, je crois. Alors après, est-ce que le chasseur de vampires est une figure érotique au sens classique? Non, bien sûr, mais on peut peut-être nuancer si on sort des films de la Hammer, là, effectivement, il y a des... Si on va chez, je prends un exemple un peu extrême, chez John Carpenter, par exemple, la figure du cow-boy chasseur de vampires, on renoue avec un certain... mais ça renoue avec un certain érotisme de la figure du héros classique.
Je crois que l'érotisation du chasseur de vampires, mal en tout cas, qui apparaît dans le Carpenter, il est à mettre en relation avec une certaine repuritanisation du mythe. C'est-à-dire que la figure érotique, au départ, c'est celle du vampire, et on va repasser du côté du bien pour le sexe. Et donc c'est comme ça que Hugh Jackman se retrouve vachement sexy alors que son adversaire est un monstre absolu qui donne envie à personne et sa progéniture, on n'a qu'une envie, c'est l'abattre à la DCA. Du côté graphique, effectivement, c'est un cow-boy. Celui qui joue Tom Sawyer dans la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, c'est un cow-boy un peu steampunk, un peu... Entre le cow-boy et l'aventurier des steppes, mais c'est quand même un barbare. C'est quand même un barbare, et c'est un barbare puritain, et c'est quand même un inquisiteur. Et c'est là que moi je trouve ça ennuyeux, le personnage du chasseur mâle. Alors que quand on tape dans Buffy, là on a de la sexiness, et elle n'est pas là pour restaurer l'ordre moral, en fait. Et c'est pas dans une thématique sexuelle. Et là, je pense que Sophie, c'est sa partie. Qu'est-ce que t'en penses?
Alors, déjà, je suis entièrement d'accord avec Jeanne sur le côté sexy de Hugh Jackman. C'était assez impressionnant. Un côté cow-boy et Indiana Jones. Mais par contre, effectivement, il y a un petit côté puritain et redresseur de tort, peut-être, qui m'a également un peu ennuyée. Et dans Buffy, on ne le retrouve pas. Souvent, j'ai l'impression que les chasseuses de vampires ou les chasseuses en général ne se préoccupent pas forcément de rétablir la justice, l'ordre dans le monde et tout ça. Elles veulent juste survivre. Elles veulent juste survivre, protéger leur famille, voir leur gosse, leur mari, leur maison, sauver le prince charmant. Mais après, le bien et le mal, leur but, je crois que c'est surtout d'éviter de crever. Et ça en reste là, et c'est peut-être ce qui en fait leur caractéristique principale. Ce n'est pas des redresseuses de tort, c'est des êtres humains. Et c'est peut-être ce qui les rend plus attrayantes aussi.
Justement, là, on fait un petit bond dans le temps. Avec l'explosion de la Big Clit, on a un peu plus de chasseuses. Elles sont comment graphiquement, et puis elles sont comment en termes de personnalité? Il y a des grandes lignes comme ça, elles sont souvent jeunes par exemple, c'est comme ça qu'on les imagine au premier abord.
Alors, je n'ai pas tout lu, mais en ce qui concerne la Big Clit en général, j'ai une impression que souvent l'âge des héroïnes était en accord avec l'âge du lectorat ciblé. C'est aussi un intérêt. Alors déjà, on a un sentiment d'attachement, d'identification, mais également au fil des aventures et des tomes, les personnages vieillissent. Et en même temps que le lectorat, ils évoluent. Donc on garde une correspondance au fil du temps qui fait qu'on ne perd pas cet intérêt. Sauf évidemment quand l'intrigue s'étiole, et là forcément on perd l'intérêt. Mais les personnages restent humains, vieillissent, et on se prend d'affection pour eux. Et pour moi, c'est une des premières caractéristiques des personnages de la Big Clit. C'est que comme c'est des humains, ce n'est pas comme Tintin, qui garde le même âge tout le temps. C'est des personnages qui évoluent avec le temps et qui partagent nos préoccupations. Et c'est leur principale caractéristique humaine. Après, d'un point de vue physique, souvent, je dirais, c'est comme tout le monde, on rencontre de tout. Il y a des grandes, il y a des petites, il y a des voluptueuses, il y a comme mon personnage une espèce de brindille presque asexuée. Alors, j'ai été très surprise, un jour on m'a dit « votre personnage est sexy ». Oh, elle n'a pas de seins, elle n'a pas de cheveux, enfin elle est rasée, et elle n'arrête pas de dire des jurons. C'est pas sexy, c'est bon. Les gens se font leur propre image du personnage. Mais donc les héroïnes sont... Voilà, chacun trouve la sexitude où il veut. Mais en tout cas, d'un point de vue physique, le fait que les personnages soient des femmes, comme tout le monde à la base, avec une caractéristique peut-être surnaturelle, fait que leurs physiques sont très différents. C'est juste leur qualité surnaturelle, ce point qui les rend uniques, comme Buffy, qui les distingue des autres, mais du coup, elles ne correspondent pas aux critères de beauté standard de notre époque. Pour reprendre Buffy, par exemple, quand on la compare avec tous les autres personnages féminins de la série, ce n'est pas la plus belle. La plus belle, c'est Cordelia. Ce n'est pas la plus intelligente, parce que la plus intelligente, c'est Willow. Ce n'est pas non plus la plus grande gueule, je dirais, c'est Anya. Ce n'est pas la plus puissante en magie, c'était Tara. Donc en fait, Buffy, c'est juste la pom-pom girl de base qui n'est pas particulièrement foutée, qui a juste un bon mot quand elle tue les vampires. Elle a juste une caractéristique, c'est que c'est l'élu. Point. Elle n'y peut rien, c'est l'élu. Et c'est ce qui fait d'elle l'héroïne.
Buffy, une pom-pom girl de base. Hein. Vous l'aurez bien retenu comme moi.
Ça change.
Oui, oui, bien sûr. On va s'intéresser un petit peu à ce que fait Jeanne. Dans Métaphysique d'un vampire et puis l'héritière, l'image du chasseur de vampires, il est comment?
Mais en fait, le chasseur de vampires dans mes romans, c'est le vampire lui-même. Mon vampire, Malvar, tue les vampires pour les comptes du Vatican. Parce que déjà, c'est plus pratique de mettre les gens à égalité. Hein. Et puis parce qu'il a un très sale caractère, et puis parce que ça lui profite physiquement. Plus il baffre du vampire, plus il devient un super vampire lui-même, et il a l'intention de vivre extrêmement vieux et extrêmement puissant, de façon à pouvoir dire merde à tout le monde. C'est pas tellement pour avoir le pouvoir, c'est vraiment pour avoir la capacité d'envoyer chier quiconque essaiera de marcher sur les pieds. C'est pas du tout un mégalomane Navarre, c'est l'anarchiste fondamental, on va dire. Ni dieu ni maître, surtout. Donc, il bouffe ses copains parce que finalement, quand même, il a vaguement... Au départ, c'était parce qu'il avait vaguement un sens moral qui faisait que la chasse, c'est comme la baisse, ça doit se pratiquer à égalité. Et avec les humains, l'égalité, c'est zéro. Donc il a commencé comme ça, par tuer les copains, quoi. Parce qu'ils étaient plus fun à tuer. Et puis finalement, il s'est aperçu que ça lui donnait un surcroît de force et surtout, ça éteignait la faim pour un certain temps, ce qui n'est pas le cas des humains. Donc, le mien ne s'embarrasse pas vraiment de morale, il n'est pas là pour restaurer l'ordre. Le fait qu'il bosse pour le Vatican, c'est juste par opportunisme, c'est pas ce que ça fait. C'est un endroit où il a le droit d'être immortel sans que ça gêne personne. On n'est vraiment pas dans le côté « je sauve l'humanité ». Non, non, je sauve mes fesses, je les mets à l'abri dans le marbre et dans les dorures, et tout va très bien pour moi. Voilà, et j'essaye de vivre le plus vieux, le plus cool, et le plus sympathiquement possible, en faisant tout ce qui passe. Voilà.
Voilà, donc comme ça, vous avez une bonne idée. Graphiquement, visuellement, puisqu'on parle de chasseur, comment est-ce que tu l'imagines, Navarre ? Comment est-ce que tu le décris ?
Alors, je l'ai décrit deux fois, Navarre, d'un point de vue vestimentaire. Physiquement, c'est un Aryan, et il le regrette beaucoup, parce qu'il fait 1m95, il a les yeux bleus, il est blond, il est beau, et du coup, ça fait de lui j'aime beaucoup le lapsus que je viens de faire, mais je ne m'expliquerai pas dessus. Ça fait de lui un personnage très reconnaissable. Or, il aimerait bien qu'on foute un peu la paix. Sinon, c'est jean, blouson, t-shirt, mais dans des tissus de bonne qualité. Il y a un moment, il y a une histoire de Navarre où il est dans la merde dès le départ, ça se passe en 2065. Les vampires ont été découverts et éradiqués de la surface de la planète, sauf quelques-uns, et ils servent de réservoir à drogue pour des trafiquants de morsures de vampires. Et là, on l'a costumé en vampire façon Bela Lugosi, et enfermé dans une cave, et il trouve ça débile parce que le satin sur les morceaux de parpaing, ça se déchire, il y a de la poussière qui se met dessus, et que franchement, si c'était pour ressembler à un vampire de la Hammer, ce n'est pas la peine. Il y a tout un passage où, d'ailleurs, il se fout de la gueule de Bela Lugosi. Enfin, bon. Donc graphiquement, Navarre, dans le costume, comme dans la vie de tous les jours, il est en rupture. C'est un iconoclaste, il casse la gueule au mythe, il casse la gueule au genre dans lequel il se trouve, à savoir la biblique et la paranormale romance. Et en même temps, il est extrêmement rangé dans le code. Donc voilà. Il est toujours au bord de la frontière.
Pascal Crossi, vous le disiez tout à l'heure, et puis on le voit quand même, il y a beaucoup de références cinématographiques hein, quand tout le monde parle. Quelles sont vous vos références quand vous dessinez justement des histoires de vampires ? Vous avez commencé tout à l'heure à nous dire pour Dracula, mais pour les autres personnages ?
Pendant que je faisais la bande dessinée sur Dracula, je mettais en permanence en télévision, enfin, le bal des vampires, entretien avec un vampire. Moi, c'est vrai que le monde, comme tout à l'heure, je disais, ce qui m'intéresse chez les vampires, c'est pas le côté érotique ni le côté sens. Je disais, c'est le côté éternel du temps. Tout simplement aussi, parce que quand on fait une bande dessinée, ça dure un an de travail. On me demande toujours pourquoi je fais pas de série. Je dis toujours parce que j'ai trop peur de mourir entre deux albums. J'ai toujours cette relation avec le temps. Voilà, c'est peut-être pour moi un refuge, le monde des vampires. Vous, la question, c'était. C'est
vos influences graphiques.
Les influences graphiques. C'est pas forcément sur les vampires, ça peut être aussi la Reine Christine avec Greta Garbo, enfin voilà. C'est vrai, j'aime bien le monde féminin, mais c'est pareil, je représente pas le féminin très macho avec de poitrine, etc. Le côté, alors, c'est vrai, dans le monde de la bande dessinée, on a tendance à dessiner des pin-up, comme on préfère Marilyn Monroe à Greta Garbo. Moi, je préfère Greta Garbo sur le plan esthétique. J'aime bien l'ambiguïté aussi sur les personnages. Que même le masculin devient féminin.
Sophie, c'est la même chose dans la beatlit, dans les codes. On sent une influence du cinéma ou pas du tout? Ou au contraire, la beatlit s'affranchit de tout ce qui a été fait jusqu'ici?
Pour moi, la beatlit et le cinéma sont très liés, à la fois parce que la beatlit a démarré avec l'adaptation au cinéma de certaines séries, et que ces adaptations au cinéma ont ensuite influencer des livres à venir. J'aurais du mal à dire lesquels des deux ont servi de référence aux autres. Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a des codes qui sont nés. Je ne sais pas comment le dire. Le coup du vampire scintillant, par exemple. L'idée a été faite par Stéphanie Meyer. Maintenant, désolé, on ne peut plus avoir l'image sans envisager une certaine scène de film. Donc c'est un code qui est vraiment du cinéma. Après, je n'ai pas l'impression... Les personnages sont tellement différents que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de diversité pour parler de référence. Par contre, dans les romans, on retrouve, peut-être pas dans les personnages, mais dans les scènes, des références à des films. Je sais que moi, en tout cas, j'en fais énormément quand j'écris, parce que j'adore les films et les séries. Mais par exemple, dans Buffy, il y a énormément de références et de parodies à des films. Il y a même Dracula qui fait son apparition dans un épisode de Buffy. Il y a beaucoup de passages comme ça. Et il y a aussi des références à d'autres films, à d'autres séries. Dans les romans aussi, il y a notamment une série où le personnage féminin tue les vampires avec ses escarpins à talons aiguilles en bois.
Ah.
C'est dans la série Riley Jensen, où elle ne veut absolument
pas... Je le jure.
Elle ne veut absolument pas devenir une chasseuse de vampires, mais qu'il y a un vampire qui l'attaque, elle n'a pas d'armes. Bon, bah, elle a des talons aiguilles en bois. Et ça, pour moi, c'est visuel, c'est un film, ça. Donc voilà, je pense qu'il y a des références qui ne sont pas forcément directes, mais la Bitly, pour moi, est conçue de façon cinématographique. Peut-être parce qu'elle est très liée à la base avec le cinéma, mais c'est des romans qu'on peut facilement s'imaginer, dont on peut voir les scènes.
Et justement sur la quincaillerie du chasseur, on parlait de la mallette tout à l'heure, de l'épure en bois et du manteau chaud. Est-ce que c'est des choses qu'on retrouve en Bitlite ou pas du tout?
Alors, dans la Bitlite, je dirais adolescent. Après, il y en a qui disent que c'est pas de la Bitlite, on ne va pas débattre là-dessus. Dans la Bitlite, jeunes adultes, il n'y a pas forcément de trac, donc il n'y a pas beaucoup d'armes. C'est plutôt premier amour, question de l'humeur, l'immortalité, quitter son foyer, fonder une nouvelle famille, blablabla. Dans la Bitlite pour adultes, on a les escarpins en bois, on a les pieux, on a les fioles d'eau bénite, on a les spots à lumière. Je vais arrêter là avant de dire des bêtises. On a des arbalètes, on a tout l'attirail. Je dirais le plus. C'est comme dans la salle défense qu'on a fait tout à l'heure, le plus impressionnant possible. Il faut que ce soit visuel. Il faut que le lecteur puisse facilement s'imaginer les scènes et voir tout de suite le coup qui part, l'arme bien impressionnante, un peu comme dans Alien. Dans Alien 2, tout le monde voit la scène où Sigourney Weaver scotche un lance-grenade et un lance-flamme l'un à l'autre. Et c'est inspiré de Buffy d'ailleurs, il l'a dit, c'est Joss Whedon qui disait que plus on veut rendre l'ennemi puissant, plus on va inventer des armes impressionnantes. On se dit, plus l'arme est grosse, oh là là, le méchant c'est qui va être costaud. Ben, ils l'ont fait dans Alien et je pense que dans Bitlite, c'est un code qui a été repris aussi. On invente le plus d'armes possible pour faire un peu d'originalité et aussi pour montrer à quel point le méchant, il va falloir se poser la cervelle pour le détruire.
C'est quelque chose, cette évolution-là, là, de cette course à l'armement, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu au cinéma et peut-être cette course aussi au décalé et au fun.
Oui, ça bien sûr. Juste pour rebondir sur ce qu'on disait avant, sur les liens entre littérature vampirique et code graphique. En fait, si on revient à la base, en gros classique, Dracula, Bram Stoker, il faut le voir comme un roman qui est contemporain de la naissance du cinéma. L'écriture, elle est extrêmement cinématographique. C'est un montage, en réalité, le roman. C'est un montage de journaux intimes, de lettres, de toutes sortes de choses comme ça. C'est un roman épistolaire, mais c'est d'abord et avant tout un montage avec une logique de découpage, etc. Et ça, on est déjà dans une écriture cinématographique. Si on rentre dans le style de Stoker, c'est aussi une écriture très, très visuelle. C'est un roman éminemment sanglant. Toute l'iconographie qu'on retrouve après, enfin, dans les films de la Hammer, à partir des années 50, avec Christopher Lee, les yeux exorbités, le sang, les canines, etc. Ce sont des images qu'on retrouve telles quelles dans le roman. Donc, le lien entre littérature et dimension graphique, il est déjà posé d'emblée dès la fin du 19e siècle. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Après, pour l'évolution des armes, toujours plus fun, je reviens à Penny Dreadful, ce que j'ai lu en fait il y a quelques jours. On retrouve donc la figure classique de ce Van Helsing avec les vêtements, etc. Mais là, effectivement, on a aussi une évolution. On n'a plus les pieux dans le cœur, on a les arbalètes, on a les armes à feu, on a des choses de cet ordre. Donc du coup, on va vers quelque chose qui va être toujours plus visuel, toujours plus physique, éventuellement fun, mais c'est pas forcément le qualificatif qui conviendrait le mieux à cette série. Mais effectivement, on a cette évolution-là. Oui.
Il y a quand même, je pense à deux romans, Carpe Gigulum de Terry Pratchett et entretien avec... Non, c'est pas dans Entretien, c'est dans L'Estal Vampire. Il y a dans ces deux romans un détournement de l'arme contre le vampire. En fait, tout ce qui nous est raconté, c'est qu'en fait, les vampires craignent l'habituel apparat catholique, que les signes kabbalistiques, la lumière, etc. Et en fait, dans les deux romans, on vous dit, c'est une
superstition.
Voilà, c'est une superstition des vampires. Et il suffit qu'ils se déconditionnent et ils s'en tirent. Alors, dans l'entretien, c'est le théâtre parisien des vampires qui vit dans une espèce de secte qui s'autocontrôle de façon terrible jusqu'à ce que l'Estat arrive et fiche le boxon fouetté en leur démontrant qu'on peut rentrer dans les églises, que l'eau bénite, c'est que de l'eau, il me semble bien. Je ne jurerai pas à 100% parce que j'ai une image comme ça, mais si Sophie approuve, c'est que ça doit être vrai. Et dans Terry Pratchett, ça devient absolument hallucinant puisque lui, il invente que la règle, c'est de mettre dans les châteaux de vampires tout cet apparat pour laisser une chance à la proie de se servir d'une arme qui est commodément accrochée au mur. Il y a des grandes tentures qu'on peut ouvrir en plein sur le soleil, mais c'est fait dans un esprit sport. Et ça, c'est la vieille génération des vampires. Et la jeune génération des vampires, elle a décidé d'être moderne, de se battre contre la superstition. Donc, elle s'est peu à peu habituée au soleil. Elle a enlevé toutes ces panoplies d'armes totalement stupides qui permettaient à la nourriture de s'échapper. Bref, on est dans une forme de vampire qui ressemble quand même énormément à des vampires, comment dire, du côté UMP de la force. Voilà.
Décomplexé.
Ah voilà, c'est ça. C'est pour ça que lui a tout. Alors, évidemment, ils vont avoir affaire dans Carter de Gloom à l'ancienne manière, à savoir Mémé Sire du Temps, qui va rétablir l'ordre moral et la tradition. Mais c'est là que l'intertextualité est absolument jubilatoire, de mon point de vue, parce qu'on reprend absolument tout et on le casse. Mais on le rétablit. Mais on le recasse. Et que ça soit chez Lestat comme chez Terry Pratchett, on a la même, enfin chez Lestat, chez Anne Rice, on a la même jubilation à jouer avec le code. C'est d'ailleurs, je pense que c'est eux deux qui m'ont poussé à faire Naba, parce que franchement, c'est ce qu'il fait.
C'est vraiment l'idée de Jenny dans Lestat, le rapport à la croix, parce que du coup, on a effectivement cette secte du cimetière des innocents, donc voilà, ils sont des vampires médiévaux, voilà. Ils sont devenus vampires de l'époque médiévale, donc les représentations culturelles de cette époque-là, ils partagent la même foi que les chasseurs de vampires de cette époque-là, et donc du coup, ça renvoie réellement en face à l'idée que le chasseur de vampires qui brandit la croix, on n'est plus ni moins qu'un inquisiteur, et qu'un. Voilà, on est. C'est la force de subversion aussi de ce renversement de valeur chez Anne Rice, oui.
C'est là qu'elle est profondément iconoclaste. Et voilà. Et moi, je serais américaine, je me méfierais là sur le côté religieux chez nous, parce qu'il y a de la révolte là-dessus.
Sophie.
On a également cette façon de jouer dans les codes, dans la beatlit. Je pense que ça a été une reprise très volontaire, mais dans plusieurs séries de beatlit, notamment Anne Rice, on a également des icônes religieuses qui sont utilisées et détournées de leur sens. Notamment par le fait que, bah, par exemple, on prend un vampire catholique et on lui met, je cherche les symboles,
la swastika en une ville.
On lui met une swastika ou un Coran sous le nez, il va regarder, il va faire, ben, désolé, ça ne me concerne pas. De même, un vampire athée, on pourra lui déballer toute l'artillerie de toutes les religions, aucun effet. Il faut que le vampire ait la foi pour réagir à l'icône de cette foi-là. Et je ne sais plus dans quelle série, il y a même un chasseur de vampires qui tend une croix sous les deux vampires, et le vampire fait « Ah, ah, oh, oh mon Dieu, c'est terrible !» Et ce coup, il se relève, il fait « Non mais, désolé, je rigole, mais ça marche pas. » Et là, c'est vraiment, c'est très très visuel, c'est la caractéristique, et surtout, c'est un détournement complet. C'est vraiment dur, c'est n'importe quoi ce truc-là.
Bah, c'est une idée qui est déjà présente en fait dans le bal des vampires, oui. Des Polanski, où on a l'aubergiste juif qui débarque, qui a été vampirisé, qui débarque dans la chambre de sa maîtresse et son employé également. Et qui dit non, elle brandit la croix, elle est là, non, tu sais très bien que ce truc-là ne marche pas du tout sur moi. Et bah, oui. Voilà, on est vraiment dans ce détournement.
Oui, mais le bal des vampires, c'est un détournement à lui tout seul, de toute façon.
C'est
le premier grand détournement du vampire.
C'est merveilleux.
C'est splendide.
Quand vous avez fait le mythe raconté par Bram Stoker, on disait tout à l'heure que Dracula était un roman éminemment cinématographique. Vous aviez aussi le cinéma en tête ?
Oui, bien sûr. Puis en plus, ce film, Le bal des vampires, qui est pour moi mon film de chevet. Je disais tout à l'heure dans l'autre conférence que. Quand j'ai un moment de cafard, ben voilà, je regarde ce film. C'est, certains ont besoin d'autres films, moi c'est celui-ci. Le bal des vampires est un classique de voilà.
Et sur le côté, oui, vas-y, vas-y.
Et sur le côté quoi ?
Comment ? Cinématographique de le mythe raconté par Bram Stoker.
Je me sers de différents films, comme je disais tout à l'heure, entretien, enfin de. C'est tout.
Sophie.
Non, je crois qu'on était juste en train de faire un éloge magnifique du bal des vampires, là, voilà, à nous cinq.
Voilà, on l'a tous vu.
On l'a tous.
On peut peut-être ajouter un truc sur le chasseur de vampires. On pourrait peut-être ajouter quelque chose sur le chasseur de vampires, parce qu'il est quand même assez atypique dans le bal des vampires, ce chasseur.
Ah, oui.
Parce qu'il fait référence à deux images. Il y a l'image, évidemment, d'Einstein, les cheveux, le savon fou. Mais il y a aussi une autre image qui vient du film de Dreyer, Vampire, où il y a un personnage qui aide la femme vampire du film. C'est un personnage magnifique. Et qui a aussi cette perruque à la Einstein. Et donc, du coup, dans la fusion des deux personnages, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant et de grinçant. C'est qu'à la fois, on a l'idée du chasseur de vampires qui est tellement passionné par son sujet d'étude qu'il en oublie sa fonction, c'est-à-dire tuer les vampires. Et donc, il va littéralement se faire vampiriser, mais intellectuellement, quelque part. Il va laisser le mal proliférer. Et en même temps... En même temps, bah voilà, ça c'est sa dimension finalement maléfique aussi. C'est pas juste l'incarnation d'un bien qui vaincrait un mal ou qui tenterait de vaincre un mal. Il y a vraiment aussi, à un moment donné, cette fascination pour le mal. Et ça, c'est une des dimensions importantes du chasseur de vampires. Et là, pour le coup, ça passe avec cette espèce de silhouette invraisemblable d'Einstein, d'un Einstein grimaçant. Voilà, il y a un côté un peu comme ça.
Et justement, puisqu'on parle, on revient un petit peu sur les chasseurs, est-ce que dans le cinéma, quelles sont les figures les plus folles un peu des chasseurs de vampires ?
Figure la plus folle, bah,
ouais, les plus étonnants, quoi.
Bah, lui, incontestablement, c'est le voir marcher sur les créneaux du château avec cette espèce de gestuelle extrêmement cartoonesque, c'est vraiment un chasseur de vampires improbable, quoi. C'est... Le voir se faire congeler deux fois, puis décongeler deux fois avec des stalactites qui pendent du nez. Voilà, c'est un drôle de chasseur de vampires, ça, il n'y a aucun doute. Mais oui, il y en a d'autres. Une figure marquante, alors pas une figure folle, mais une figure vraiment marquante, c'est dans un film de la Hammer tardif, Les Sévices de Dracula, avec Peter Cushing à nouveau dans le rôle d'un chasseur de vampires. Mais ce coup-ci, c'est vraiment un inquisiteur absolument effrayant, bien plus effrayant que tous les vampires qu'on voit dans le film, qui sont de sympathiques libertins, qui partousent régulièrement,
s'enveillant leur cercueil,
voilà. Bon, aristocratiquement quand même, on ne va pas les non plus les. Mais lui, c'est vraiment un chasseur de vampires effrayant, parce que non seulement il ne tue pas les vampires, mais il ne cesse de pourchasser des jeunes femmes dans les campagnes avoisinantes, en pensant qu'elles sont des sorcières qui vont aider les vampires, et donc il ne cesse de brûler des innocentes. Voilà, donc voilà un chasseur de vampires assez marquant, et là, pour le coup, quand même, vraiment dérangeant. Ouais.
On en revient à ça, que la figure mâle du chasseur de vampires, c'est une catastrophe.
C'est une figure maléfique.
C'est une figure bien plus maléfique que ses proies. Alors que la figure femelle, qui est récente, finalement, puisque avant, comme tu le disais, entre victime et prédatrice, on n'avait pas le choix, et ben, on se retrouve avec... la fille normale, la fille d'à côté, celle que tu décris, qui fait avec ce qu'elle a, avec ce qu'elle peut. Éventuellement, elle va tuer du vampire, mais c'est presque par accident. Son but dans la vie, c'est juste de vivre. Voilà. Et c'est exactement ce que tu disais de ton héroïne.
Je vais quand même rajouter un petit bémol. Elle tue de temps en temps. Il y a quand même des héroïnes de Beatlit qui tirent plus vite que leur ombre et qui tuent et qui, on va dire, qui trucident avant de parler. Et c'est très rigolo aussi.
C'est les Anita Blake, par exemple.
Alors il y a les Anita Blake, il y a l'héroïne de Cassandra O'Donnell, la série Rebecca King, qui est l'héroïne qui, je crois, tue plus de monde que les méchants à elle toute seule. Et c'est assez rigolo.
Alors, je vais bémoler ton bémol.
Bémolant.
Il y a un truc intéressant avec Anita Blake, c'est que c'est une des premières. Et donc, il n'est pas étonnant qu'elle reprenne le modèle de base mal. D'autant plus que Anita Blake, c'est pas la girl next door du tout. Hein, c'est une super femme. Et c'est une des premières de la vitrite, on va dire. Mais elle est encore dans le renversement de la figure mâle. Alors que ce qu'on voit apparaître depuis 5-10 ans, c'est pas Anita Blake, c'est des filles normales. Et là, on n'est pas dans le renversement, le renversement genré. C'est des vraies femmes, en fait. Anita Blake, je suis pas persuadée que ça soit totalement une vraie femme. Même si elle baise avec des hommes rares.
Alors maintenant, elle le fait avec des femmes aussi.
Ah, c'est bien.
Ah oui, complètement. Non, c'est très bien. Mais elle a des soucis moraux à cela, mais c'est très bien qu'elle s'y mette aussi.
Ah bon, elle se fait des hommes rats, ça la gêne pas, mais...
Elle se fait de tout. Elle se fait de tout et tout en même temps. Donc, mais par contre, effectivement, c'est une des premières, voire même la première, parce que c'était la même époque que Buffy. Et c'est assumé, parce que dans les premiers romans, elle le dit, que dans ce milieu masculin, parce qu'elle a quand même la formation... De nécromante, de policière, elle a toutes les formations qu'il faut pour trucider du vampire à tout va, mais elle le dit que dans ce métier dominé par les hommes, il faut être plus macho qu'un mec hein, pour y arriver.
Ah, mais elle a raison.
Et elle a raison, et je sais plus dans lequel c'est un des trois premiers, ils en sont autour d'un cadavre à faire le concours de celui qui vomira en dernier, et elle en est à prendre les intestins pour les balancer à la tête du mec en face, histoire de gagner le prix de moi j'en ai des grosses. Donc oui, effectivement, c'est
des
pas...
Des gros ovaires.
Non mais elle a plein de grosses choses, elle a plein de boucles, elle a plein de choses. Mais c'est une super femme dans le renversement des rôles et qui n'est pas forcément, je dirais, très réaliste non plus. Parce que bon, elle fait l'intérêt de la bitlite, c'est aussi que les personnages disent et font des choses qu'on ne ferait pas dans la vie quotidienne. On prend notre univers, on prend une fille quotidienne, on lui fait dire tout ce qu'on n'oserait pas dire au quotidien. Et la, mais en plus de cela, oui bon, toi tu oserais peut-être, mais je ne suis pas toi. Mais effectivement, il y a aussi certaines exagérations, notamment dans les premiers, pour que le personnage soit plus fort que les hommes. Elle se comporte en homme. Mais elle ne boit pas d'alcool.
Je pensais pas à moi, là, sur ce coup-là. Non.
Donc voilà, vous l'aurez compris, hein, le chasseur, on a commencé très classique avec Dracula. On finit avec des chasseuses très libérées. Qui couche beaucoup, ouais, voilà, c'est l'évolution. Et nous, on termine un petit peu cette table ronde. Est-ce que vous avez des questions dans le public à poser à nos intervenants sur leur roman, sur les chasseuses, sur les chasseurs, sur qui couche avec qui, éventuellement. Une fois, deux fois, trois fois. Bon, et ben on va vous remercier. Merci pour cette table ronde.